Un jour peut-être. Joie que depuis vieux, jamais présent ne fut si riche de son passé oublié. Immobile et tranquille, ne veut plus bouger d'un cil, d'un iota, d'une pensée. Car j'ai pris ma mesure. Je la chante en hurlant, bien fort à ceux qui m'étouffaient. Les sens du pratique, les voix de la raison à qui je dis, je rêve encore, mes papas. Pitié, attendez demain. Quand je serai bien grand, pour me mettre à l'ombre en pleurant. Je crierai en grinchant, comme vous le fîtes avant. Trop tard, il est déjà demain. L'été 2028. Il avait été d'une douceur exceptionnelle, sans forte chaleur, avec ce petit vent, un peu frais le matin, qui caractérise notre région. C'était la première belle saison que je passais seul, je veux dire sans mon épouse. Elle s'était éteinte l'hiver précédent. Un peu à la manière d'une chandelle face à un courant d'air trop violent. Elle s'arquebouta un bref instant pour me défier, la nuque raide, puis s'échappa d'un souffle du monde des lumières. Je ne l'ai pas pleuré, je ne l'aimais plus. Ma vie à raser ses côtes devenait une pâle comédie. Les jours appelaient les jours avec lenteur. La tristesse des routines recroquevillait mon peu d'énergie. Nous donnions dans la caricature. Notre image du couple uni pour le meilleur et le pire frisait la farce. La bonne vieille plaisanterie réservée à ceux qui s'arrogent le droit de la raison, des convenances, du mouton et du devoir. Durant 40 ans, Rosa m'avait guidé sur cette route peuplée de démons que je ne voyais pas, trop aveuglée par mes rêves imbéciles. Elle m'avait montré jusqu'à m'en convaincre où était notre chemin. Je n'avais pas le courage de lui résister, alors je l'ai cru. J'ai cautionné ce guide, d'abord en l'admirant et en l'aimant, puis en m'en écartant, avec la sauvegarde de mon âme pour seule ambition. Ces dernières années, je ne pouvais plus la supporter, plus la toucher, plus l'entendre. La veiller pendant sa longue maladie fut une souffrance. J'attendis sa fin en sentant déjà qu'elle serait d'abord et avant tout ma propre délivrance. L'été 28 m'a apporté l'allant, attisant ce feu couvant en moi depuis des décennies. Agnès, mon unique petite fille, est venue 2 longues et bonnes semaines. J'ai puisé sa force, sa soif de vivre. Pour m'en repaître, après son départ, rebondir, revivre au petit matin mes rêves absurdes, disait la défunte, et que vive l'octogénaire avant qu'il ne retombe outre. À présent, je me lève, pas trop frais mais disposé à l'aventure d'un jour neuf. Je souris au petit déjeuner, je dis bonjour au soleil, salue d'un geste un oiseau ou chante mes louanges aux arbres. Agnès m'a donné tellement de bonnes raisons de m'y mettre enfin, quels que soient les obstacles apparents, qu'un sang nouveau abreuve mes impulsions. Fort de cette irrigation nouvelle, même si je n'ai pas encore fait le premier pas, je me sens, je suis, et je m'en réjouis assez pour meubler mes journées. Je connaissais des limites à ne pas franchir, je savais qu'il me serait difficile de revenir en arrière, de faire comme avant. J'avais peur de passer la haie tout en brûlant de le faire. Rosa et les autres m'avaient juré qu'une fois franchi la limite, qu'une fois poussé la porte du fond, ce serait une chute insensée dans un trou sans fin, un gouffre de désillusion. Je me suis donc appliqué, tout au long de ma vie, à ne pas prendre de risques malgré l'appel qui déchirait mes tripes. Agnès, du haut de ses 31 printemps, m'a ri au nez. À quoi bon la vie dans de telles conditions? À quoi riment ces interdits qui te fixèrent et te fixent en dehors de toi? Tu n'as plus d'excuses à faire valoir. Je reviendrai dans quelques mois et gare à toi si tu n'as pas commencé à vivre ta destinée. L'année 1958. À 10 ans, je savais déjà ce que je voulais faire, mais je n'osais pas le dire. Je craignais un père. Je ne doutais pas de son affection. Je savais qu'il me pardonnerait toujours, mais j'étais si effrayé à l'idée de le décevoir qu'il me fut impossible de lui donner mon avis. J'étais cloué, étouffé par la peur de faire mal. Pour moi, il était le modèle impossible à suivre, la référence à vanter sans pouvoir l'imiter, ni avoir l'outrecuidance de le faire. Il était le maître absolu de ma destinée. Je n'imaginais d'ailleurs rien sans sa bénédiction, sans un aval, un signe de tête approbateur, un petit geste affectueux avec ce zeste de condescendance qui en faisait un être supérieur. Une sorte de Dieu placé si haut que le moindre de ses regards était suivi les yeux fermés. Lui s'en arrangeait fort bien de cette dévotion, et que le modeste vermisseau qui lui devait la vie soit apeuré l'amusait. Parfois nous avions de longues discussions que je voulais complice et tendre, mais qui n'en avaient que l'apparence. Des discussions à sens unique, durant lesquelles je confirmais les réponses que ses questions induisaient. Je l'écoutais béat, admirant cet homme paré de tout. ne lui cachant point, je buvais la moindre de ses paroles. Il se levait ensuite, conscient du devoir accompli, persuadé d'avoir été à la hauteur de la tâche. D'une tape un peu rude, sorte de bourrade virile entre hommes, il concluait son long monologue, satisfait, d'avoir échangé quelques idées avec son fiston. Cette année-là, je connus mes premiers succès scolaires. Un premier prix de dessin et un accessit de musique gratifièrent mes efforts. Je me souviens de cette remise de prix quand, rouge de plaisir, jubilant à en baver, je tendis les bras pour recevoir d'un coup deux récompenses sous un tonnerre d'applaudissements, sous son regard. Cette année-là, je connus ma première grande déconvenue. Car après mon succès public incontestable, une fois de retour à la maison, mon père m'a dit « J'espérais de ta part autre chose, mon fils. Quelque chose de sérieux, d'un peu plus consistant. » Les grandes vacances furent un calvaire. Je devais travailler mon orthographe, ma grammaire, et revoir les grands principes qui firent la gloire de ce cher Euclide. Je devais ne plus perdre de temps en vaine discipline pour me consacrer à mon avenir et faire en sorte qu'il ne soit pas approximatif. Je devais comprendre la gravité de la vie. Je devais mettre à profit mes vacances pour amorcer un virage à 180 degrés. Je devais tant et tant qu'il m'apparaissait impossible de satisfaire un jour mon créancier. J'ai fini par comprendre qu'à chaque instant, l'oisiveté et le laisser-aller pouvaient m'entraîner sur de périlleux chemins de traverse. Et j'ai renoncé à mes matières fétiches pour rester concentré sur l'essentiel. D'ailleurs, il me disait « Tu dois aller à l'essentiel, le reste ne doit pas te distraire. » Je devais. Le simple fait de se baigner par un bel après-midi donnait lieu, dès le souper, à une leçon sur la portance ou sur la densité. Le simple fait de rire pour une histoire idiote incitait l'autre à m'expliquer l'humour et à m'assommer d'histoires au deuxième degré que je ne comprenais pas mais qui devaient me faire rire. Pas trop aux éclats, plutôt sourire. Cette année-là, j'appris qu'il était possible de détester son idole, de la brûler, et que c'était facile. Pourtant, comme pour tout, il y eut des signes avant-coureurs. Le Noël d'avant, par exemple, quand il m'offrit à la place d'un coffret de peinture pour barbouiller un mécano XXL pour construire. J'aurais dû comprendre que cet homme, qui se disait mon père, ne roulerait jamais pour moi, son fils chéri. J'aurais dû comprendre que je n'étais qu'un pion qu'il manipulait pour jouir de son pouvoir. Cette année-là, il décida, de concert avec ma terreur, qu'il me faudrait une filière scientifique. Il était persuadé de m'avoir laissé choisir. J'avais dit oui, sans trop savoir. Que pouvais-je faire d'autre? En quelques minutes, il aurait balayé tous mes arguments d'incertain, toutes mes hésitations de petit mec qui ne sait pas encore tout. Je l'aurais détesté davantage. Pour m'avoir violé l'âme. Pour m'avoir tué l'innocence, assassiné la candeur. Que pouvait faire un petit garçon de 10 ans, sans grande force de caractère, pour faire comprendre à de sages parents bien rangés dans leur boîte à principes qu'ils ne savaient peut-être pas grand-chose des choses, mais qu'ils se sentaient d'abord artistes. Autant convertir un inquisiteur à la non-violence. Cette année-là, je me mis à haïr les études, ce qu'elles représentaient. Cette année-là, j'appris à détester la vie, cette tragédie insensée qui m'empêchait de faire ce que j'aimais. J'appris à détester cette chose sérieuse et si grave. Moi qui pensais dans mon cœur d'enfant qu'elle était rigolote, joie, comédie, éclat de rire, rêve. Mais je n'étais qu'un enfant. Je ne connaissais rien de rien. Cette année-là, j'appris à exécrer un peu tout le monde. Tous ces méritants qui prennent leur vérité pour axe du monde. Tous ces frustrés qui régissent leur vie comme une forteresse imprenable. Tous ces salauds de mauvaise foi qui ne donnent que quand ils reçoivent. J'appris à devenir comme eux, puis à trouver cela pratique, plus confortable. Pas se poser de questions sans réponse. Devenir partie prenante du rang. N'être que le rang. Et m'y tenir. Depuis ce temps, j'ai vécu dans mon ombre, les épaules un peu voûtées par mes lâchetés, en larmoyant parfois. Et puis me ressaisissant, sans conviction, sans entrain, vaincu. Mais avant de sombrer totalement, j'ai quand même eu droit au printemps. Printemps 1969. Ça m'a fait du bien d'avoir 21 ans. Du bien cette porte claquée à lui péter les gonds et ce cri au tyran. Plus jamais! Ma mère pleurait de vraies larmes tandis que son mari jouait les indifférents. Mais je savais bien quelle souffrance il endurait. Lui, le réaliste, le juste, le droit. Il avait nourri en son sein l'enfant parjure, le félon. Lui s'était trompé. L'admettre était un supplice. Quel régal de le voir branlant, prêt à s'effondrer comme un château de cartes, l'œil mouillé, la lippe tombante. Le doute s'était installé et j'en jouissais. Je le voyais enfin faillible. Ce fut la seule fois, ce fut mon seul festin cruel. Je ne suis pas taillé pour la haine, et je pardonne avec le sentiment de ne pas pouvoir faire autrement. Je l'ai revu par la suite. J'avais changé un peu d'angle, lui avait vieilli. Que dire d'autre? En plaquant tout, du jour au lendemain, j'ai d'abord eu l'impression d'être libre. Puis, le camarade qui m'avait hébergé, me trouvant encombrant, gênant, indésirable. Comme je n'avais aucun projet, que mes études interrompues promptement ne me donnaient rien d'immédiat, j'optais pour la route du sud. Une amie m'avait parlé d'une communauté en Lozère, pas très loin de Chanac, au bord du Lot. Un endroit où je pourrais attendre l'été, entouré de peace and love, mais surtout de love. Communauté. Mes maigres économies ont nourri les 23 membres pendant quelques jours, et après j'ai fait comme les autres. La Manche aux alentours. Pas vraiment le choix, les cultures ne donnaient rien. Une saleté s'était collée sur les patates, et comme notre gourou ne voulait pas entendre parler de traitements chimiques, nous avons mangé les feuilles comestibles et chié abondamment. Les deux chèvres pétaient la forme et nous fournissaient en lait bio, mais nous devions partager. Et pas grand-chose à distribuer pour beaucoup, ça voulait dire « Bonjour madame, t'as pas une petite pièce ?» À part les contingences matérielles, le reste allait bon train. Un peu de spirituel et les sens en éveil. La vie se regardait couler. Les principales préoccupations du groupe étaient de s'arranger pour n'en avoir aucune. Pas davantage d'obligations. Pas davantage de contraintes ou tout ce qui aurait demandé un effort jugé disproportionné. Il s'agissait en fait de réformer le monde en profondeur, à partir d'un noyau d'irréductibles sincères et motivés. L'essentiel du temps était employé à la méditation. Elle seule était à même de clarifier toutes les situations. Elle seule nous guidait sur le chemin des bonnes intentions. Elle seule raffinait nos impulsions anarchiques et nos pulsions primaires. Le gourou nous y aidait en montrant l'exemple. S'éveiller et devenir des êtres luminescents en condition d'aimer, d'inciter à le faire sans distinction. Vaste programme et tendre certitude, rude tâche. Nombreux pétards que nous fumions tout au long de la journée pour nous mettre en condition, faire preuve de compassion pour le reste du monde. Le cannabis amenait chez certains de folles hilarités, mais pas chez moi. Moi je bandais à tout bout de champ, tant pis pour la compassion. Probable manque d'entraînement compensé par un autre pétard encore plus conséquent et une autre érection qu'il était tout autant. Mais la solidarité était telle qu'une sœur de la communauté s'empressait de régler mes problèmes avec Priap. De ce point de vue licencieux, je ne pouvais pas me plaindre. Filles et garçons s'aimaient sans chichi et à défaut cohitaient. Nous passions ainsi de longues nuits à produire de l'énergie positive comme de longues siestes pêle-mêle. Plus besoin de regarder sous les jupes des filles, elles n'en avaient pas. Ce qui facilitait, disait le gourou, la méditation. Ce qui éradiquait, disait le gourou, les mensonges du corps. Blast it. Un beau matin de mai, tandis que grondait la révolte dans la capitale, un voyageur batave nous rendit visite. Il passa quelques jours dans notre famille recomposée. Parmi les jupons, il participa à quelques fêtes du slip avec une vigueur exceptionnelle, puis poursuivit son chemin. Avant de partir, il nous laissa plein de monstres verts, un acide au long cours très apprécié des randonneurs. S'ensuivit une semaine de félicité à se faire bouffer les neurones. Une période bénie, à nul autre pareil que je conseillerais aux enfants d'aujourd'hui si la vie n'était pas si longue, si demain n'était pas, parfois, le problème. Une fois les réserves de voyage épuisées, tout le monde s'est remis au pétard, tous heureux de retrouver nos marques. Moi le premier. Je sentais bien l'influence des tripes sur ma volonté, je savais que tôt ou tard, ils m'emporteraient bien loin. Au pays d'où l'on ne revient pas sans aide. Libéré du démon paternel, c'eût été stupide de troquer un fourchu pour un autre. Une rupture de stock qui tombait bien. À la fin de ce printemps insouciant et joyeux, je me suis remis à penser, ou plutôt, je me suis autorisé à penser, après des années d'interdit, à la peinture. Les moues méprisantes de mon père ne me poursuivaient plus, me lâchaient. Je pensais de nouveau en couleur. Je voulais jaillir de l'intérieur pour m'écraser sur une toile, impudique, obscène ou bien tendre, si calme. N'avoir qu'un seul propos et une armada de pinceaux pour seule vocalise. Que je puisse enfin chanter les nuances forgées par mes douleurs. mais une souffrance à ne savoir que faire, à trembler, sangloter, douter, une souffrance à déchirer mes certitudes, à permettre de terribles angoisses, une souffrance qui attisa mes peurs. Du fond de ma mémoire, elles surgirent et me firent douter. Pourrais-je donner naissance aux formes? En aurais-je le talent, les capacités? Comme il me fallait savoir que le mal qui me rongeait ne cassait pas, j'ai dit un beau matin mes intentions d'essayer. Confidence à ma voisine de droite qui m'a souri, à celle de gauche aussi, et puis à tous. Le souffle ainsi jeté, je me suis senti calme, d'un coup, en accord parfait, sous les applaudissements. « Hurrah !» a fait le cocon, toujours partant le cocon, marre de se faire chier à méditer sur sa vie plutôt creuse. Mais ce blanc-seing m'a fait du bien. Je me suis dit, t'as plus d'excuses, c'est le début. Plusieurs semaines à faire la manche passèrent, afin de réunir suffisamment de piécettes et, un jour de grande défonce, je me mis à la recherche d'un marchand pour les barbouilleurs. Je courus vers mon destin sans me douter de ce que le sort m'avait vraiment écrit. Au village, assise sur le rebord de la fontaine, le sac à dos à ses pieds, prête aux tripes les plus fabuleux me suis-je dit, elle jouait de la flûte, comme pour moi. L'impression d'être le spectateur privilégié, l'oreille qui comprend sa musique, le complément et l'équilibre indispensable à toute harmonie. Elle m'a suivi, mais les autres ont voulu me la prendre. J'étais jaloux. Pour la première fois de ma vie, je ne voulais pas partager. Qu'un autre que moi puisse la toucher, loin de m'exciter comme à l'accoutumée, m'horripilait. J'ai quitté la communauté pour la suivre, derrière sa flûte, comme un rat, tout droit vers la noyade au pays du Gruyère. Sur le moment, je prenais son instrument pour un symbole fort, symbole d'une histoire en devenir qui serait un renouveau, une quintessence. Enfin, je me complaisais à le croire. En réalité, j'étais guidé par ma bite. Cet homme n'a aucune volonté. Le premier trou m'a mené sous un édredon de plumes un peu lourd dans la maison familiale de la belle à m'endormir. Le deuxième trou me téléporta chez Retroussemanche, un bon maître qui donnait du travail aux vauriens, comme si ce genre d'activité pouvait être offerte. Mais il le fallait. C'était mon devoir de subvenir pour devenir. « Tu comprends, me disait la pauvre Emmeline, un homme qui ne possède rien n'est rien qu'un moins que rien. » Et j'ai obéi, bien que je pensais l'exact contraire. Le troisième trou ressemblait à une chaîne interminable, plus ou moins lâche en fonction des besoins de la Suisse. Le stylo plaqué or du banquier voulait me donner le goût des belles choses indispensables à l'homme moderne, mais ça a raté. À force de me fouler les chevilles sur la route trouée, j'en ai eu marre et j'ai trouvé, par un curieux hasard, Rosa pour me sauver des vides et mes Noëls se passèrent dans les ronds. Ma nouvelle tutrice m'amena rondement sur le chemin qu'il faut suivre, pendant 40 ans. Au début, j'ignorais que les ronds, c'était pire que les trous. Avec un rond, il est impossible d'être ailleurs qu'au fond. Il suffit de le faire rouler. Et Rosa savait y faire. Décidément, cet homme n'a aucune volonté. Novembre 2028. Les premiers frimas m'ont cloué au lit. Dommage, je m'étais mis dans l'idée qu'il était temps. En réalité, c'est Agnès qui m'a secoué par mail interposé. Alors, dès que je vais mieux, je fonce. Décembre 2028. Ça va de plus en plus mal. Je suis toujours alité, et depuis 15 jours à l'hôpital. Il semble compatir un peu trop lorsque je tousse, que mes quintes arrachent ma gorge en feu et que les remèdes multicolores que je dois avaler ne font guère d'effet. Le regard peiné m'inquiète. Je me recroqueville en tremblant sous mon drap trop rêche, comme un petit garçon terrorisé à qui l'on annonce la fessée du siècle. Tout tremblant, glacé, piteux, inapte à la moindre protestation. Ai-je jamais protesté pour quoi que ce soit? Je veux dire à l'instant précis où il fallait le faire. Le peintre vivra dans une autre vie. Un jour, peut-être. Demain, je m'éteindrai, comme ils disent pudiquement, pour ne pas dire mourir. Je sens que c'est demain le bon jour. Ne me demandez pas pourquoi, je le sais. Je m'éteindrai sans ressentiment et pourtant, là encore, je devrais en avoir. Je m'éteindrai sans jamais avoir osé.